OK, c'est donc on va commencer notre sixième et dernière leçon dans notre série « N'aimez point le monde » de la première épître de Jean au chapitre 2, verset 15. Et la sixième leçon aujourd'hui, c'est « Comment libérer notre cœur de l'amour du monde ». Alors, on rappelle d'abord le verset, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, c'est un verset qui est assez sévère. Alors, on va simplement faire un rappel des leçons qu'on a vues depuis le début pour que les gens qui écoutent aient quand même une idée de l'ensemble de ce qu'on a vu. Alors, dans la première leçon, on avait vu qu'est-ce que c'était le monde défini bibliquement et qu'est-ce que c'était aussi aimer le monde. Dans la deuxième, on avait vu 13 raisons pourquoi nous ne devons pas aimer le monde. Dans la troisième, on avait vu quels sont les rapports que les chrétiens doivent avoir avec le monde. Bien sûr, on se doit d'en avoir, mais on sait qu'ils étaient aussi encadrés. Et dans la quatrième leçon, on avait vu quelques applications qui étaient basées sur le devoir du chrétien de ne pas aimer le monde. Dans la cinquième, on avait vu d'autres motifs pour le chrétien de ne pas aimer le monde. Et ce soir, on termine par comment libérer notre cœur de l'amour du monde. Alors, bien sûr, je pense que le genre de leçon, le genre de série, on se devrait des réviser une fois de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans, plein de versets. Et l'auteur dont je me suis servi, je suis loin de donner tout ce qu'il donnait, là, mais j'essaie de rendre ça pour que ça ne soit pas trop long. Alors, on a démontré par les Saintes Écritures que les chrétiens doivent cesser d'aimer le monde. Cependant, les combats de notre vie quotidienne illustrent bien les difficultés de détacher nos affections du monde et de ses charmes. Que devrions-nous faire alors pour nous libérer de l'amour du monde? Voici 7 moyens pour éloigner nos cœurs de l'amour du monde. Le premier moyen, c'est d'être convaincu que c'est mal d'aimer le monde. Si nous détachions nos affections et notre cœur de l'amour du monde, nous verrions clairement que nos jugements sont faussés et que nous estimons le monde trop hautement. Nous devons alors juger le monde selon la Bible. Voici comment l'Écriture juge le monde. Quand on regarde, par exemple, dans Galates, au chapitre 1, les versets 3 et 4, dans la version Osterval, ça dit « La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer de ce siècle corrompu, selon la volonté de Dieu notre Père. » Et dans la Lausanne 1872, je trouve intéressant la manière dont lui l'a traduit. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés afin qu'il nous arrachât du présent siècle méchant, selon la volonté de notre Dieu et Père. Alors, on le sait, le monde est rempli de péchés, plein de malice, plein d'oppression, plein d'exploitation éhontée, plein de corruption, sujet à l'esclavage spirituel et aussi sujet à la destruction. On sait par les Saintes Écritures que le monde est dominé par les démons. Dans 1 Jean, le chapitre 5, au verset 9, nous lisons « Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. » Alors le monde est aussi séducteur et trompeur. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, les versets 13 et 14, ça dit « Et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible que Dieu a donnée aux hommes afin qu'ils s'y exercent. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voilà, tout est vanité et tourment d'esprit. » Dans 1 Jean aussi, au chapitre 2, les versets 16 et 17, ça dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Plus un chrétien méditera sur ces vérités, plus il agira vigoureusement en repentance et plus il priera le Seigneur de le libérer de l'amour du monde. Alors, on a vu le premier moyen. Maintenant, on va regarder le deuxième. Le deuxième, on avait déjà fait une série là-dessus, c'est de mortifier nos péchés ou nos convoitises. Alors, pour nous débarrasser de l'amour du monde, nous devons surveiller notre cœur et mortifier nos convoitises. Ce sont nos convoitises qui nous font aimer le monde. Proverbes, chapitre 23, les versets 4 et 5. « Ne te fatigue pas à t'enrichir, ni applique pas ton esprit. Pourquoi jeter les yeux sur des biens qui bientôt ne seront plus? Car certainement, ils se font des ailes, comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. » Et on a le fameux Romains 8, 13 et 14. On avait basé toute notre série sur la mortification, sur ces versets-là. Ce qui dit, en effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et on a aussi dans le chapitre 4 de Jacques, les versets 1 à 3, d'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez être satisfaits. Vous luttez et vous faites la guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. C'est des versets qui sont assez sondants. Nos convoitises, nous supplierons de vouloir tout ce qui est dans le monde. Les honneurs, le pouvoir, les richesses. Cependant, peu importe combien vous en obtiendrez, des honneurs, du pouvoir ou de les richesses, votre âme ne sera jamais satisfaite par ces choses. Troisième moyen de se détacher des choses du monde, regardons aux choses célestes. Pour nous détacher de l'amour du monde, nous devons regarder davantage à l'autre monde. Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre, car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. On a également dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, et versets 17 et 18. Car notre légère affection du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente, puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. Donc, c'était le troisième moyen. Le quatrième, c'est de garder nos cœurs avec diligence. Surveillons nos cœurs pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop soucieux des choses de ce monde. Matthieu, chapitre 6, et versets 25 à 34. C'est le Christ lui-même qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt aux gens de petite foi? Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qu'il regarde. À chaque jour suffit sa peine. Des passages qu'on a lus des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, des passages qui sont difficiles à appliquer dans nos vies. On est porté à se soucier toujours de toutes sortes de problèmes. Luc chapitre 10, versets 26 à 28, Jésus lui dit, il parle, c'est dans le contexte de, avec le jeune homme riche, qu'a-t-il écrit dans la loi et qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Exode chapitre 20, verset 17, on sait que ça c'est dans le Décalogue, les 10 commandements de Dieu, que Dieu nous commande, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Hébreux, chapitre 13, verset 5, que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez content de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Certainement, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Des fois, c'est parce qu'on lit les passages, puis on ne fait pas attention à ce qui est dit. Dieu lui-même a dit, « Certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il s'adresse à nous, c'est Dieu qui parle. Alors, quelque part, c'est des versets très puissants, je trouve. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est des versets plus qu'intéressants. Cinquième moyen, c'est de se soumettre à la volonté divine. Gardons nos volontés complètement soumises à la volonté de Dieu, dans son infinie sagesse et son absolue souveraineté. Il a choisi nos circonstances pour notre plus grand bien et pour sa plus grande gloire. Le fameux Romains 8, 28, versets 28 à 30. Quel verset! Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le verset 28, dans le grec, « Toutes choses travaillent ensemble ». Peu importe ce qui se passe dans nos vies, les choses, on dirait que c'est un peu comme quelqu'un qui fait du tricot. C'est des mailles qui se rentrent l'une dans l'autre et ça travaille ensemble pour un but précis, celui de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Autrement dit, tout ce qui nous arrive, des fois il y a des choses qui nous font souffrir, des fois il y a des affaires qui nous font plaisir, mais toutes ces choses-là contribuent à nous rendre semblables à Christ. Et quand on comprend ça, on se devrait de recevoir toutes nos circonstances avec joie et avec soumission et bien autre chose encore, avec contentement. Alors ces versets nous enseignent que le Seigneur contrôle parfaitement toutes nos circonstances par sa sainte providence. Manifestons quotidiennement notre contentement et implorons sa grâce pour être rendus capables de le faire avec authenticité, avec joie et avec gratitude. Et sixième moyen de se détacher des choses du monde, regarder à Christ. Sixième, je ne sais pas si c'est sixième ou septième, en tout cas, sixième. Regardons à Christ. Et Hébreux, chapitre 12, et versets 1 et 2. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Christ nous est présenté dans le verset 2, d'Hébreux 12, versets 1 et 2, comme étant pour nous le parfait modèle de la foi, une vie de complète dépendance envers son Père, une vie d'intime communion avec Dieu, une vie de parfaite obéissance au Père, une vie de pleine assurance du futur invisible. Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 6. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Et le dernier moyen, aimons Dieu davantage. Plus notre amour pour Dieu croîtra, plus notre cœur se détachera des choses du monde. On le sait, le monde est rempli de mal et de corruption. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, aller jusqu'au verset 4. La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que, par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Et après ça, j'ai mis le psaume 45, parce que le psaume 45, si aimer Dieu est un moyen de nous débarrasser de l'amour du monde, ce verset-là, je suis allé regarder dans Charles Spurgeon, il a écrit un livre, The Treasure of David, il a fait un commentaire sur l'ensemble de tous les psaumes. Et quand on lit ce qu'il dit, par exemple, sur le psaume 45, vraiment l'amour de Dieu là-dedans, on se devrait de placer, au lieu de placer notre amour sur le monde, si on plaçait notre amour sur Dieu et sur Christ, bien entendu, à ce moment-là, toutes nos perspectives changeraient, tous nos comportements également changeraient. Alors, ça dit, le psaume 45, les versets 1 à 17, Ou maître chante, Maskil, cantique des enfants de Corée. Cantique nuptial, sur Shoshanim, les lys. Mon cœur bouillonne pour prononcer une parole excellente. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Ma langue sera comme la plume d'un écrivain habile. Des fois, quand on lit, les pensées de Spurgeon, il y a trois livres que Spurgeon a écrits, Paroles du matin ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, il y en a trois. Des fois, on lit ça. Et Spurgeon, c'est un véritable poète. Tu lis ce qu'il dit, puis c'est tellement beau des fois, c'est tellement bien écrit que tu es là, tu dis, waouh, quel bonhomme. Ici, ça dit, mon œuvre est pour le roi, ma langue sera comme la plume d'un écrivain habile. Quand on lit quelque chose qu'on trouve intéressant, c'est tellement bien dit. Et ici, David demande que sa langue soit comme celle d'un écrivain habile pour parler de Dieu. Et il dit, tu es, dans le verset 2, tu es plus beau qu'aucun des fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi, Dieu t'a béni à jamais. Héros, serre à ton côté ton épée, ta parure et ta gloire. Triomphe dans la gloire, monte sur ton char. Pour la vérité, la bonté et la justice, ta droite te fera voir des exploits terribles. Verset 5, tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi, elles iront au cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, demeure à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Quand vous regardez dans le texte, j'ai souligné des endroits. On parle de beauté, on parle de bénédiction, on parle de vérité, on parle de bonté, on parle de justice, on parle d'équité. Toutes des choses qui concernent le Seigneur Jésus. On pourrait apprendre à l'aimer davantage en observant dans sa vie tout ce qui concerne ces choses-là. Verset 7, « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, il t'a mis au-dessus de ses semblables. » Bien sûr, ici, il fait référence au Saint-Esprit qui est accordé à Jésus-Christ. Verset 8, « La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, le jeu des instruments te réjouit. Des filles de roi sont parmi les dames d'honneur. L'épouse est à ta droite, parée d'or d'orphire. » C'est qui ça, l'épouse? C'est nous. C'est nous. On est là, on est à sa droite, et on est parée d'or d'orphire, l'or le plus précieux qu'il y avait à l'époque. Et verset 10, « Écoute, jeune fille, et vois, et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera pour lui ta beauté, puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, avec des présents et les plus riches du peuple, viendront te rendre hommage. La fille du roi est pleine de gloire, dans l'intérieur du palais, des tissus d'or forment son vêtement. » Elle est présentée au roi, parée de broderies. À sa suite, les vierges, ses compagnes, te sont amenées. Elles te sont ramenées avec réjouissance et allégresse. Elles entrent au palais du roi. Tes fils tiendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans toute la terre. Je rendrai ton nom célèbre dans tous les âges. Aussi, les peuples t'honoreront à toujours et à perpétuité. Alors, les Écritures, c'est la source de découverte de toutes les beautés, de toutes les richesses, de tous les attributs du Seigneur Jésus. Et plus on placerait notre cœur sur des choses qui sont vraiment valables, plus on détacherait nos cœurs de l'amour du monde. Alors, j'ai mis quelques applications, trois. Rappelons-nous constamment les sept moyens que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous aider à ne pas aimer le monde. Premièrement, soyons convaincus que c'est mal. Deuxièmement, mortifions nos convoitises. Troisièmement, regardons aux choses éternelles. Quatrièmement, gardons nos cœurs avec diligence. Cinquièmement, soumettons-nous à la volonté de Dieu dans nos circonstances providentielles. Sixièmement, regardons continuellement à Christ pour le découvrir dans toute sa beauté, sa richesse, sa grâce, son amour. Et la dernière, est mon Dieu davantage. Deuxième application, demandons quotidiennement à Dieu de nous sonder, pour nous révéler nos faiblesses en cette matière d'amour du monde et de nous donner les correctifs qui s'imposent pour sa plus grande gloire. Troisièmement, implorons l'Éternel avec authenticité et ferveur de nous faire la grâce de mettre ces choses en pratique. Que notre grand Dieu soit béni, loué et exalté éternellement.